Le groupe de recherche et d'études sur la radio présente Exposé par Christophe Deleu.
Épisode 4, à la rencontre de l'anonyme.
Dans le cadre d'Engrenage.
Le 8 février 1974, Max Meynier, ancien animateur de RTL, Les routiers sont sympas, est pris en otage par un anonyme dans le studio où il présente son émission. Jacques R., muni d'une grenade et d'un pistolet, exige que Max Meynier lise un message à l'antenne, dans lequel il milite pour la liberté d'expression, dénonce la corruption, la misère et les abus de pouvoir de toute nature. De la musique est ensuite diffusée à l'antenne. Plus tard, un court flash lu par Jean Farran, directeur de RTL, informera les auditeurs de l'évolution de la prise d'otage. Jacques R. ne se contente pas de son exploit radiophonique. Conscient du pouvoir du média télévisuel, il exige de passer à la télévision le lendemain pour répéter son message. Ayant obtenu cette garantie, Jacques R. se rend finalement sans faire de victime. Avec l'accord de la police, il donne une conférence de presse pour expliquer son geste. Ce fait divers peut être regardé comme métaphorique, à l'extrême bien sûr, des relations entre le média radiophonique et les anonymes qui ont voulu s'y exprimer. Il aura fallu de nombreux combats pour que tous puissent enfin parler au micro, conquérir un espace réservé aux spécialistes, aux experts et bien sûr aux professionnels eux-mêmes. C'est tout ce processus que je voudrais décrire aujourd'hui, comment aujourd'hui l'écoute des témoins du quotidien est devenue possible. Cet ordinaire qu'évoquait Michel de Certeau, cet infraordinaire pour Pérec. Voici ce qu'on peut lire, par exemple, sur le site internet belge Espace Citoyen. En 2007, un studio radio installé dans une caravane itinérante, une heure de libre antenne que les jeunes exploitent à leur guise. Un espace d'écoute autour de la caravane. Voilà quelques-uns des ingrédients de Exprime-toi. Ce projet est proposé par la SBL, Samarcande, service d'aide aux jeunes en milieu ouvert, AMO, situé à Etterbeek, Bruxelles. Samarcande fait déjà ses preuves depuis 2 ans avec Samarconde, une émission radio entièrement réalisée par des jeunes et diffusée sur Radio Campus. Que d'années il aura fallu attendre pour entendre ce type d'expérience. Dès la création de la radio, se constitue pourtant un fabuleux projet. Tous les citoyens du monde vont pouvoir se parler dans ce que Bachelard va nommer la logosphère. Un monde qui se réinvente, un monde dont les frontières terrestres disparaissent. Mais c'était oublier que l'apparition d'un nouveau média constitue toujours un danger pour le pouvoir politique habitué au secret, et qui allait entraver le projet de logosphère pendant plusieurs décennies. En France, le premier cas de censure est relevé dès le 26 octobre 1923. La station Radiola annonce sur son antenne qu'elle va diffuser un journal. Celui-ci sera présenté par Léon Poldès. Mais le sous-secrétaire d'État au PTT interdit la diffusion du journal. Les vieux réflexes de censure de l'État demeurent présents. Avant même d'être aménagée pour le studio, la radio a une vocation militaire. Elle est utilisée à des fins stratégiques. Il s'agit de transmettre des informations secrètes, en temps réel, d'une partie du territoire à une autre. L'idée selon laquelle un programme de radio peut être diffusé pour tout le monde effraie le pouvoir politique qui voit d'abord en la radio un instrument de manipulation. Pour comprendre la nature de la participation radiophonique des auditeurs ou des anonymes, il faut obligatoirement se replacer dans le contexte des années 20-30. D'une part, il est vrai qu'à l'exception des programmes de jeu, l'auditeur n'intervient pas à l'antenne. D'autre part, et le paradoxe apparaît, les auditeurs sous forme d'associations participent à la gestion et à la conception de certains programmes, mais l'antenne est réservée aux professionnels. Les auditeurs sont surtout intéressés par les questions d'ordre technique, car à l'époque, les conditions de réception ne sont pas celles que permet la diffusion en modulation de fréquence aujourd'hui. Les auditeurs, passionnés à l'époque, peuvent encore créer leur radio. Ainsi, l'homme qui symbolise le mieux l'auditeur des années 20, selon Duval, s'appelle Antoine Bonnefou, qui crée Radio Béziers en 1927. Pourquoi, s'interroge-t-il, n'être qu'un auditeur passif quand on peut émettre ? Il faudra attendre de nombreuses années pour qu'une réponse positive puisse être apportée à cette question. Des intellectuels qui ont foi en la radio l'aperçoivent très vite comme un outil au service de la démocratie. Le philosophe Walter Benjamin, influencé par la théorie marxiste, ou l'écrivain Bertolt Brecht, par exemple, qui voit la radio comme le plus formidable appareil de communication qu'on puisse imaginer pour la vie publique, un énorme système de canalisation, si elle pouvait non seulement émettre, mais recevoir, non seulement faire écouter l'auditeur, mais le faire parler, ne pas l'isoler, mais le mettre en relation avec les autres. Pourtant, ce n'est qu'à partir de 1968 que se développent les débats sur la liberté d'expression. La volonté de pouvoir parler librement à la radio devient une exigence, et des militants passionnés vont se battre pour que cela devienne une réalité. Un symbole fort va marquer cette époque et préfigurer le mouvement des radios pirates, l'occupation de Radio Sorbonne par les manifestants, interrompue bien sûr par le ministère de l'Intérieur. Dès 1969, Radio Campus dans le nord de la France devient ainsi la première de celles qu'on va appeler les radios pirates. Un peu plus tard, plusieurs radios commencent à émettre. Radio Active à Paris en 1975, et Radio Eulenspiegel à Hasbrook dès 1976. Et puis, l'une des plus connues, Radio Verte à Paris, en 1977, date à partir de laquelle le mouvement prend de l'ampleur. La revue Interférence va aussi servir de terrain de réflexion pour l'expression de l'anonyme. Les expériences des radios libres italiennes, qui ont précédé le grand mouvement de 1977, vont aussi influencer les débats théoriques de la revue. Bruno Giorgini, fondateur de Radio Alice, écrit ainsi que la radio est le moyen de communication le plus révolutionnaire, le plus immédiat, celui qui permet de donner la parole directement à ceux qui ne l'ont jamais eu. Cela n'est guère possible avec un journal, il y a toujours une médiation nécessaire, même quand on veut faire un journal ouvert. Dans les années 70, la radio devient ainsi le média qu'on associe le plus à l'idée d'expression démocratique. Les militants en faveur des radios libres demeurent persuadés que le langage radiophonique, le vrai, constitué par la parole du peuple, va accroître la liberté de l'individu et faire disparaître les injustices sociales. Bruno Giorgini affirme que les gens ont une capacité de description des choses, un pouvoir de faire comprendre ce qui les concerne, qu'on ne retrouve pas dans le langage écrit. Il existe vraiment un langage mineur, qui n'a rien à voir avec celui que veulent imposer le capitalisme et les moyens d'information de la bourgeoisie. Le langage mineur est directement subversif. Dès 1977, toutes les radios libres revendiquent à l'antenne ce droit à la parole, pour tous, et le font reposer sur la suppression du monopole de radiodiffusion. À côté de cette exigence principale, apparaissent d'autres revendications. Les radios libres sont nombreuses. Pour Sophie Thivant, qui a écrit les radios de proximité en 1986, elles sont vertes, bleues ou roses, libres, alternatives, indépendantes ou commerciales, démocrates chrétiennes, communistes, écologistes ou d'extrême gauche. Il est donc impossible de résumer ici toutes leurs revendications. Elles épousent l'air du temps, varient d'une radio à l'autre. Sous l'influence des écologistes, Radio Verte diffuse des paroles de militants préoccupés par les questions de l'environnement, en pleine période de développement des centrales nucléaires. Dès le 2 juin 1977, Radio Verte se dote d'une petite sœur à Strasbourg, Radio Verte Fessenheim, dont la priorité est la lutte contre la pollution et le nucléaire. À l'antenne, les militants écologistes demandent la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Très vite, la radio s'ouvre à d'autres préoccupations, principalement à l'emploi. Le slogan de Radio Verte Fessenheim devient « Vivre et travailler au pays ». Depuis 1973, les inquiétudes face à l'emploi s'accroissent. Radio Lorraine Cœur d'Acier est créée à Longueville, en pleine période de crise de la métallurgie et de la sidérurgie. L'antenne est ouverte aux ouvriers inquiets à l'idée de perdre leur emploi. Radio Lorraine Cœur d'Acier a relayé Radio SOS Emploi à longue vie, créée en 1978, première radio ouvrière française qui disparaît faute de moyens. Les radios libres se font l'écho aussi d'autres revendications relatives aux questions de société. À Paris, Radio Fil Rose représente la communauté homosexuelle et sur Radio 93, l'objectif est de défendre les libertés publiques. Après l'incendie d'un foyer Sonacotra, la radio laisse la communauté portugaise révoltée s'exprimer à l'antenne. Radio Grenouille, radio associative et locale, est fondée en 1981 par Richard Martin, directeur du théâtre Tourski. Cette expérience nouvelle de médiation culturelle relevait d'une double ambition, d'une part offrir un espace d'expression aux artistes et d'autre part porter leur parole, la rendre accessible au public, et plus particulièrement à un public non connaisseur des pratiques et démarches artistiques non dominantes. Est-on allé vers un nouveau langage radiophonique ? Un débat se fait jour à l'époque. Certains membres des radios libres veulent révolutionner les dispositifs radiophoniques qu'ils qualifient de bourgeois et remettre en cause le mode de communication et d'information. D'autres, au contraire, veulent se contenter d'introduire des contenus nouveaux dans les schémas traditionnels pour ne pas risquer de dérouter l'auditeur et surtout pour ne pas se couper des masses habituées à certaines pratiques culturelles. Les premiers ont pour objectif la révolution radiophonique, tandis que les seconds voient dans la radio un objet qui leur permet de transmettre des revendications. Pour eux, la radio doit faire descendre les gens dans la rue. C'est parfois malgré elle que les radios libres inventent une nouvelle façon de faire de la radio. Pour échapper aux saisies de matériel, les radios n'émettent jamais au même endroit. Radio Verte Fessenheim fait de ce handicap un atout. Chaque jour, elle émet à partir d'une maison d'un village différent et fait participer les habitants de la maison au programme. Des forums sont ainsi organisés au centre des villages. En raison de ces changements réguliers de lieu, la sédentarité n'allant pas de pair avec la clandestinité, le recours au téléphone, tant utilisé par les radios périphériques pour faire participer les auditeurs, n'est pas possible pour les radios libres. Seule Radio Lorraine Cœur d'Acier échappe à ce constat, car elle dispose de locaux permanents à la mairie de Longueville. Pour les autres radios, il faut donc inventer de nouvelles formes d'intervention pour les auditeurs. Soit l'émetteur se déplace vers l'auditeur, soit l'auditeur se déplace vers l'émetteur. Le studio de radio, lui, est jugé trop confortable. En 1980, aux Pays-Bas, la radio pirate, Radio 100, se demande comment faire participer les auditeurs aux émissions autrement que par le téléphone. La radio choisit d'émettre d'un café qui fait office de studio et où tout consommateur peut intervenir. En Italie, Radio Alice supprime le rôle de l'animateur et ouvre son antenne à toute personne qui le souhaite. Très vite, la radio devient un centre de renseignement et s'éloigne de son projet initial. Ceux qui veulent transmettre un message à leurs femmes ou à leurs enfants viennent le faire dans le studio de Radio Alice. Les dirigeants qui avaient conçu la station comme un espace où des revendications devaient se faire jour sont décontenancés. Les membres des radios libres voulaient donc démythifier la radio en offrant l'accès à tout le monde. Malheureusement, sur Radio Alice, Bruno Giordini constate, amer, que la plupart des propos sont teintés d'ennui et ne présentent pas d'intérêt. Toutes les radios libres sont confrontées à ce problème. Tout le monde n'a pas quelque chose à dire. Problème qui se transforme en impasse dès l'instant où la fin du monopole est annoncée en 1982. Beaucoup de militants s'étaient engagés dans le combat des radios libres afin de lutter contre ce monopole. À partir du moment où il n'existe plus, beaucoup vont se retirer, puisque l'un des grands attraits du combat était constitué par la transgression de l'interdit visant à s'exprimer à la radio. C'est pourquoi, dans un grand nombre de stations, ce sont avant tout les responsables d'associations, habitués à prendre la parole en public, qui ont hérité de la mission de parler à la radio, alors que le projet de départ des membres des radios libres était de donner la parole au peuple. Ces porte-paroles ont souhaité se professionnaliser en devenant salariés de la radio, ce qui était contraire à l'esprit des radios libres qui se caractérisait par le refus de toute forme de confiscation de la parole. Face à tous ces mouvements, les radios publiques tentent elles aussi de mener des expériences. Il y a celle de Radio Solitude dans les Cévennes. Les radios locales de Radio France ne peuvent pas à proprement parler être qualifiées de radios communautaires. Elles sont davantage reliées à un territoire qu'à une communauté. En revanche, l'expérience qui a été menée en septembre 1976 dans les Cévennes, avant la création des radios locales, s'apparente plus à une volonté de créer une radio communautaire. Pendant une dizaine de jours, grâce aux moyens de l'INA, Radio Solitude tente de laisser la parole aux Cévenols. Elle expérimente à cet effet deux systèmes de liaison interlocale. Des interviews sont enregistrées par les habitants eux-mêmes, puis, durant 10 jours, un circuit de lignes téléphoniques est établi entre les vallées, de façon que chaque soir, un dialogue s'installe entre les habitants des deux villages et que se manifeste par la confrontation la nature de leurs problèmes respectifs grâce au dialogue. Cette radio de communication sociale a eu pour objectif de lutter contre la désertification de la région. C'est pourquoi Radio Solitude peut être qualifiée de radio communautaire. Les habitants sont tous concernés par ce phénomène social. Des problèmes divers, notamment la coordination des habitants, ont nui à l'expérience qui n'a pas été renouvelée. Ce projet intervient dans une période où il est beaucoup question de décentralisation radiophonique. Les radios locales sont sur le point d'émerger. Autre exemple, Radio Porte Ouverte en Belgique. En 1974, soit plusieurs années avant l'arrivée massive des radios libres en France, une émission de la RTB, Radio-Télévision Belge, publique, vient rappeler les premiers signes d'ouverture d'élargissement de l'espace médiatique aux anonymes, comme une autogestion radiophonique. Plus de 80 séquences, réalisées par des groupes non professionnels, sont ainsi diffusées. Aujourd'hui, les radios associatives ont survécu, près de 500, grâce à un fonds de soutien public. Elles développent des projets personnels, mais pendant longtemps, elles ne vont pas avoir les moyens de recueillir une parole d'anonyme sur le terrain, car les moyens techniques sont trop coûteux. Nagras d'enregistrement, bandes magnétiques sont onéreux au regard du budget de ces radios. Il faudra attendre la démocratisation des outils d'enregistrement et de montage, la numérisation, pour que les radios associatives puissent aller enregistrer les anonymes et restituer la parole sous la forme de documentaires. C'est pourquoi ce sont surtout des représentants qui parlent au micro, des représentants d'associations, malgré des expériences pionnières qui vont se faire jour. De collecte de la mémoire locale, par exemple. Créée en 1981 par la municipalité d'Aulnois-Aymeries, dans le nord de la France, au moment de la libéralisation des ondes, Canal Sambre est conçu au départ, selon sa directrice Francine Auger, comme un outil de la politique culturelle de la municipalité qui répond aussi de créer un instrument qui soit vecteur de prise de parole des habitants. Depuis 1981, Canal Sambre est associé au monde ouvrier, très représenté dans la vallée de la Sambre, zone géographique où émet la radio. Canal Sambre a donc été témoin du développement de la crise économique qui a touché le secteur industriel et qui a conduit un grand nombre d'individus et de familles dans des situations de précarité économique. Par exemple, à Aulnois, siège de Canal Sambre, ancien fief de la métallurgie, comptant 9000 habitants, le taux de chômage est de 30%. Cette situation économique influence le projet éditorial de Canal Sambre, développé par Francine Auger. La particularité de cette radio, c'est que très tôt, elle met en place des dispositifs pour aller à la rencontre des publics dont elle veut recueillir la parole. Femmes d'origine immigrée, anciens ouvriers par exemple. On peut qualifier ces émissions de documentaires sonores. Ce type d'émission, on l'a vu, va mettre du temps à se développer dans les radios associatives en raison du coût que sa fabrication occasionne. Les travaux d'Emmanuel Thorine à Marseille s'inscrivent dans cette étape de développement des documentaires qui ne sont plus réservés aux services publics radiophoniques. Pas forcément associé à un média au départ, Emmanuel Thorine a souhaité aller à la rencontre des habitants des quartiers marseillais qui menaçaient de subir une mutation, les vidant de leur population d'origine, par un phénomène de spéculation immobilière. Emmanuel Thorine articule sa démarche radiophonique autour de partis pris plus radicaux que de nombreuses pratiques professionnelles. Elle passe beaucoup de temps avec ses interviewés, ne construit pas toujours un cadre bien défini de diffusion. Son travail n'a d'ailleurs pas toujours été diffusé, prenant la forme de CD, parfois édité par des institutions, accompagné d'écrits, comme le travail intitulé école de filles de Saint-André. En raison du nombre important de radios associatives, il est aujourd'hui difficile de savoir comment les radios associatives poursuivent cet objectif de diffusion, de dire le monde à travers la parole des anonymes. Mais ce qui est certain, c'est que cette démocratisation des techniques d'enregistrement et de montage ne peut que favoriser cette communication. Grâce à ce recueil de la parole, va pouvoir se constituer un fabuleux fonds d'archives de la parole dans la lignée de l'action de Philippe le Jeune pour les journaux intimes d'anonymes, ce qui manque bien sûr pour les siècles précédents.
Le groupe de recherche et d'études sur la radio a proposé à la grenouille de venir faire sa dissection. Quel peut être le devenir d'une radio culturelle locale à l'heure de la révolution numérique et de l'accélération de l'hégémonie des grands réseaux de communication? Retrouvez l'exposé de Christophe Deleu du 19 au 24 mai à 10h sur les 3-8. Rendez-vous au débat public sur les enjeux de la radio aujourd'hui, le dimanche 25 mai à 16h à Montevideo. Et après l'événement, ne ratez pas le témoignage critique de Christophe Deleu sur son expérience vécue à Engrenage le samedi 7 juin à 15h sur le 88.8. Pour plus d'informations sur Engrenage, www.grenouille888.org.